Vous êtes bien sur Radio Rôliste et ce soir, nous interviewons Morgane Régnier. Bonsoir, ici Lamson. Ce soir, je suis en compagnie de Morgane Régnier, autrice de jeux de rôle, pour parler de son processus créatif et de son jeu épistolaire Sur la route de Chrysopée, qui est en cours de réédition chez Nessun Dove. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Lamson.
Alors, crevons l'abcès tout de suite. Oui, on va parler d'une réédition. En plus, la réédition d'un jeu qui a déjà été chroniqué chez Radio Rôliste à notre numéro 72, il y a 7 ans presque jour pour jour. Mais ce jeu, Sur la route de Chrysopée, était révolutionnaire à l'époque et mérite bien aujourd'hui qu'on en reparle, qu'on le réédite et qu'on s'intéresse à son autrice. Morgane, qu'est-ce qui motive cette réédition 7 ans après ?
C'est vrai qu'on prend tous un coup de vieux quand... Les gens me donnent les échéances de temps avec ce jeu. Donc, merci pour ça.
Désolé.
Je t'en prie. En fait, c'est tout bête. C'est juste que, en fait, le jeu a été donc auto-édité. On en reparlera probablement il y a 7 ans. Mm-hmm. Et puis, je suis arrivée à court de format papier, puisque à l'époque, il était achetable en format livre papier. Donc, je n'ai gardé que le PDF. Et puis, il y a 2-3 ans de ça, Nessun Dove, qui est un éditeur italien avec qui certains rôlistes français avaient déjà travaillé. Je pense aux Petites Choses Oubliées, par exemple.
De Sylvie et Christophe Guillaume Beclet.
Exactement, et tout à fait, qui était un petit jeu sous format carte postale. Donc, ils avaient déjà, eux, édité ce jeu-là en italien, et donc, ils avaient découvert Chrysopée pendant le confinement. Et ils avaient beaucoup aimé le jeu et ils avaient envie de le diffuser en italien. Donc moi, ça me faisait plaisir. Je leur ai dit oui, bien sûr. Ça a eu l'air de beaucoup plaire au public italophone, c'est comme ça qu'on dit.
Oui.
Et puis ensuite, ils m'ont suggéré qu'on fasse une édition en anglais parce que Chiara, qui est la traductrice, pouvait s'en charger en italien et en anglais. Mm-hmm. Donc, de fait, il y a eu un fou lancement déjà à l'époque, qui a bien fonctionné. Donc, le jeu a commencé à exister en anglais, puis à être diffusé notamment aux États-Unis et au Canada. Et puis, du coup, j'avais été approchée à peu près dans le même temps par des éditeurs français qui m'avaient demandé si j'avais pas envie de le rééditer en français. Moi, ça m'intéressait bien parce que j'avais des amis notamment qui n'avaient pas pu obtenir une copie papier à l'époque où elle était accessible et qui du coup me demandaient régulièrement quand est-ce qu'il ressort en papier, quand est-ce qu'il ressort en papier. Et à chaque fois, je leur disais, ben non, il n'existe plus, c'est fini. Et donc, je me suis dit, ben, c'est l'occasion. Avec ces éditeurs français, ça ne s'est jamais fait. Et donc, comme Oscar, Chiara et Maria, donc, qui gèrent Nessun Dove, sont des amis maintenant, que leur intérêt pour Chrysopée a toujours été très vif, très, très tendre, enfin c'est des gens que j'aime beaucoup, et ben, je les ai contactés en leur disant « Vous croyez qu'on ne pourrait pas refaire une édition en français ?» Et ils étaient motivés, et donc voilà, Chrysopée ressort en français 7 ans après.
Ah, c'est super, hein, parce que vraiment, je sais que c'est un jeu... Alors... auquel j'ai pas eu accès moi-même parce que j'étais déconnecté de la sphère rôliste au moment où il était disponible, mais dont on me parle régulièrement et qu'on demande régulièrement, enfin je vois régulièrement passer sur les Discord, les forums et autres réseaux sociaux, des gens qui font « Ouais, vous auriez pas un moyen de ça, de... il n'y a pas quelqu'un qui aura un exemplaire de sur la route de Chrysopée, ou comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir ?» et tout. Et c'est vrai que la réponse est assez désolée à chaque fois, « Bah non, n'existe plus, quoi. » Et donc là, c'est vraiment bien de pouvoir se dire que tous ces gens-là vont pouvoir accéder à une réédition.
Mais tu sais que c'est très bizarre comme situation pour moi. Alors déjà parce que j'ai vraiment l'impression que le jeu vit sa vie sans moi. C'est-à-dire que j'ai quand même... C'était le bon vieux temps où j'étais encore un petit peu active dans le milieu des rôlistes. Mm-hmm. Je le suis très peu maintenant, quasiment plus, à part quelques actual play que je fais chez nos amis de 2D6 Plus Cool. Mais c'est pour mon plaisir personnel. À part Chrysopée, j'ai jamais vraiment rien édité de plus. Si, un tout petit jeu, mais il est encore plus confidentiel que Chrysopée, quoi, c'est te dire. Et en fait, le jeu, il existe sans moi, parce que j'en fais pas spécialement la promo, parce que je vais pas sur les festivals, parce que, voilà, je diffuse pas spécialement. Et je trouve ça super touchant qu'il soit un peu indépendant, tu sais. L'impression d'avoir un enfant, enfin, si on veut. Qui, bah voilà, il mène sa vie, et puis de temps en temps, il fait « Bonjour maman, je suis toujours vivant. Ok, très bien, bon courage mon chéri. » Voilà, c'est un peu la relation que j'ai avec Chrysopée. Du coup, ça me fait tout drôle que tu me dises que les gens en parlent encore. Genre, je me dis, 7 ans, c'est long quand même pour la vie d'un jeu.
Oui, et en même temps, comme je disais en introduction, c'est un jeu qui a fait date, en particulier sous cette forme... épistolaire. Alors, je vais peut-être définir un tout petit peu pour les gens qui nous écoutent, mais donc quand on parle de jeu épistolaire, c'est un jeu qui passe par des lettres, et uniquement par des lettres qu'on s'envoie. Et il y avait quoi ? Il y avait peut-être un ou deux jeux qui faisaient ça avant, et sous une forme assez différente. Et du coup, forcément, quand on cite une référence de ce type de jeu-là, même s'il en existe un petit peu plus maintenant, et en particulier venant d'anglophonie, bah voilà, on cite sur la route de Chrysopée, quoi.
Je sais pas quoi dire, ça me fait plaisir. Et comme je te disais, comme en fait, après Chrysopée, enfin moi j'étais persuadée que le jeu plairait à la petite communauté des rôlistes indépendants que je fréquentais à l'époque, que ça pouvait intéresser. Mais je pensais pas que ça survivrait beaucoup plus que quelques mois, ou enfin, allez, quelques années. C'est bien tout, quoi. Et donc, ça me fait tout bizarre de revenir sur ce jeu 7 ans après, ou je sais pas combien après. Non, plus que ça, parce qu'il est sorti en 2015, donc 9 ans plus tard.
Ah, ouais.
C'est très curieux de parler de quelque chose dans lequel je me suis beaucoup investie. Et paradoxalement, il y a des thèmes et des qui me traversent encore. Alors, c'est pas moi qui le note, c'est des amis. Mais visiblement, il y a des choses qui sont restées en moi bien après. Et donc, me retourner 9 ans après et me dire, ah, à l'époque, c'était comme ça, je pensais ça, et qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? C'est toujours un peu curieux.
Et du coup, est-ce que dans cette réédition, il y a des choses qui vont être changées, justement, comme retour par rapport à la façon dont c'était écrit il y a 9 ans?
Finalement, assez peu de choses. Alors, oui et non, parce qu'en fait, le texte en tant que tel a été très peu altéré. On a corrigé 2-3 formulations qui étaient peut-être un peu maladroites à l'époque. On a les petites coquilles qui m'avaient échappé, bien sûr. J'ai rajouté, parce que ça me fait toujours plaisir d'écrire pour ce jeu, quelques pages d'un appendice. Entre autres parce que au moment où mes amis m'annoncent que donc il va y avoir la réédition de Chrysopée, ma petite chatte était très malade et j'ai voulu aussi lui rendre la glisser dans le livre ou glisser un peu de mon amour pour elle là dedans. Donc c'est à la fois un cadeau que je me fais à moi, mais aussi voilà, une petite histoire en plus. Mais ça ne change pas grand-chose à l'expérience de jeu en tant que telle. Et pour le coup, Maria et Oscar ont fait un énorme travail de mise en page, de remise en page, ce qui fait que les informations sont agencées un petit peu différemment. Les points de règle, les choses comme ça sont organisées différemment. Et donc, on espère qu'il est plus fluide comme ça et qu'effectivement, le côté un peu technique sera plus facile à saisir et que le livre sera un peu moins brouillon. Probablement. Mm-hmm. Et puis les plus jolis aussi, les plus jolis. Mais pour l'édition anglaise, j'avais pareil rajouté du contenu. Pour être très honnête avec toi, je ne sais pas s'il sera dans l'édition française. Je pense que oui. Et Marion, pour l'occasion, avait réalisé. Donc Marion Bulot, c'est l'illustratrice originelle, elle avait rajouté quelques illustrations. Je sais que pour l'appendice supplémentaire dont je viens de parler, elle va essayer d'illustrer aussi quelque chose. Donc, il y aura quelques illustrations en plus. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de refonte du jeu.
D'accord. Donc, tu travailles pour cette réédition et pour la réédition anglaise, c'est toujours la même illustratrice que dans l'édition de départ.
Ah, c'est exactement. C'est super, ça. Ouais. Bah, Marion, c'est une amie. Alors, on se voit peu souvent. Elle est très occupée, mais elle est très prolifique. Elle fait beaucoup de très belles choses. Et j'ai toujours voulu que ça soit elle, parce que c'est pas seulement qu'elle a fait les illustrations de mon jeu. Je pense que si Chrysopée a eu du succès à l'époque, et si les gens ont été sensibles à l'univers, c'est aussi parce qu'ils y ont accès avec son travail. Donc pour moi, il n'était pas question de confier la charte graphique, disons, du livre à quelqu'un d'autre.
Oui, bien sûr. Ça fait sens, effectivement. C'est vrai que, alors, moi, j'ai déjà vu des exemplaires qui circulent sous le manteau, enfin, des choses comme ça, depuis des années. Et effectivement, c'est vrai qu'on sent tout de suite qu'il y a un univers qui se transmet immédiatement par les illustrations, par les petits éléments graphiques qu'il y a un petit peu partout. Ouais.
Et si j'ai fait appel à Marion à l'origine, c'est parce que je trouvais que vraiment son style, sa sensibilité, son univers intérieur, c'était vraiment une résonance très forte avec ce que je voulais écrire ou transmettre. Parce que c'est à la fois extrêmement poétique, un peu enfantin dans le bon sens du terme. C'est pas que c'est naïf, mais c'est très tendre. Et ça, c'était important. Et je pense que Marion, elle a toujours beaucoup aimé illustrer Chrysopée, elle me l'a toujours dit. Donc forcément, au fil des rééditions, pour la version italienne et la version anglaise aussi, ce sont ces dessins qui ont été conservés.
Évidemment. Et d'ailleurs, on mettra un lien vers l'Instagram de Marion, qui fait plein d'autres choses en dehors d'illustrer Chrysopée. Elle n'a pas fait que ça dans les 9 dernières années, bien sûr.
Elle a travaillé pour des studios d'animation. Notamment, elle a dirigé une petite série animée qui est sortie sur Canal+, sur Guillaume le Conquérant. Le titre m'échappe. Rune. Il y a des épisodes qui étaient disponibles gratuitement quand la série est sortie. Peut-être qu'ils le sont encore aujourd'hui. Donc ça, c'est son travail d'animation. Mais elle a sorti il y a quelques mois une très jolie bande dessinée chez Dargo qui s'appelle Le Caillou. Donc, elle n'a pas écrit le scénario, c'est un de ses amis qui est au scénario, mais elle a fait les illustrations. C'est une très belle bande dessinée.
Eh bien, on ira voir. Mais on a parlé des autres, on a parlé de tes éditeurs, on a parlé de ton illustratrice. Et en fait, je ne sais pas si on a beaucoup parlé de toi. Est-ce que tu peux te présenter en tant qu'autrice de jeux de rôle? Quel est ton vécu, ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu crées de la façon dont tu crées?
J'ai un parcours très court, donc ça va aller très vite, hein, parce que comme je le disais, finalement, j'ai peu écrit et j'ai peu publié. Alors, j'ai fait des trucs pour moi, mais je sais jamais trop par quoi commencer les présentations, c'est toujours un peu étrange.
Alors, la plupart des gens disent qu'ils ont commencé par la boîte rouge de Donjons et Dragons en 1974, mais y a d'autres profils que ça.
Ne dérangeons pas à la règle. Moi, j'ai commencé le jeu de rôle au centre aéré, voilà. J'avais un moniteur qui nous avait fait probablement du Donjons et Dragons sérieusement allégé par ses soins. Un pote dit que c'était de l'OSR avant l'heure, mais voilà, moi j'ai commencé le jeu de rôle, j'avais 11 ou 12 ans, sur des petits scénarios pré-tirés, écrits par les soins de ce mono de centre aéré. Ensuite, j'ai complètement arrêté, parce que c'était vraiment, comment dire, contextuel comme pratique.
Oui.
Mais j'ai toujours aimé me raconter des histoires, écouter des histoires. J'aime beaucoup le conte. Ça m'a beaucoup influencée. Et finalement, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé ce qu'on appelle le jeu de rôle grandeur nature, qu'on abrège GN. Et ça, par contre, c'est une pratique que je n'ai jamais arrêtée depuis. C'est-à-dire que je suis GNiste depuis que j'ai 18 ans. Ça aussi, ça m'a beaucoup influencée. On y reviendra peut-être plus tard. Et finalement, j'ai repris le jeu de rôle à pied, disons, le jeu de rôle sur table, un peu classique, quand j'ai complètement par hasard rencontré Fabien Lidvine sur Paris, quelques années plus tard. Il faisait découvrir aux cavaliers près du métro Odéon son jeu qu'il venait d'auto-publier qui s'appelait Monostatos.
Ah oui.
Et on était déjà allé aux cavaliers pour des soirées médiévales, on suivait leur profil, on est tombé sur cet après-midi de découverte, on y est allé. Et on a rencontré le jeu de rôle indépendant, le jeu de rôle alternatif, disons, dans sa façon de faire, et Fabien.
Oui.
Et de fil en aiguille, on est... Alors, je dis « on » parce que j'étais accompagnée par Maxime, que vous avez peut-être entendu ici, et qui n'est pas étranger au processus créatif de Chrysopée, par ailleurs, puisqu'il m'a quand même beaucoup entourée, beaucoup soutenue pendant les 2 ans sur lesquels je me suis cassée les dents sur ce jeu. Et donc, j'ai découvert La Cellule, donc le podcast de la Cellule, qui était animé par Romaric Briand.
Et qui l'est toujours. Et si vous n'avez pas entendu la voix de Maxime sur ses ondes, vous l'avez sûrement entendu chez Romaric et Flavie en face, comme on dit dans Gaston.
Exactement. Chez Romaric et Flavie en face. Et donc, j'ai rencontré Romaric, j'ai rencontré Flavie, j'ai rencontré Christophe Beuclet, j'ai rencontré Côme, j'ai rencontré... Vivi, enfin, j'ai rencontré plein de gens à cette époque-là qui sont devenus des amis. Certains sont des amis de longue date avec qui j'ai gardé contact. D'autres sont des amis de l'époque dont je suis toujours les aventures et dont j'ai toujours plaisir à avoir des nouvelles, mais je les fréquente moins, peu importe. Dans ce cercle-là, j'ai découvert ce que c'était que le game design de jeu de rôle avec cette école théorique qui venait de la Forge, donc de The Forge, où le mot d'ordre, c'était un peu le système est important, le système de jeu, hein, sous-entendu. Mais ça, je pense que tes auditeurs sont un peu coutumiers de cette genèse-là, donc je ne vais pas faire dans les détails. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, moi aussi, j'aimerais créer quelque chose, créer un jeu. Ça me donnait envie, il y avait plein d'émulations, c'était très intéressant. Et j'avais envie que ce soit une auto-édition, parce qu'on réfléchissait à des modèles alternatifs qui passent par les éditeurs classiques et qui permettent quand même aux jeux de rôle... au jeu de rôle papier, d'être accessible à tout le monde. Et donc, Chrysopée a fini par naître de ça. Chrysopée a toujours été un jeu de rôle épistolaire dans ma tête. Ça a toujours été un jeu de rôle pour 2 joueurs seulement, puisqu'il n'y a que 2 joueurs et il n'y a pas de maître du jeu dans Chrysopée. Et ça a toujours été important pour moi. Ce n'est pas une décision qui est venue après coup. Je voulais un jeu intimiste. Donc pour ça, il fallait 2 personnes, pour vivre une relation à distance, parce que j'avais envie d'explorer autre chose que le jeu de rôle sur table, et aussi une autre temporalité, parce que Chrysopée est un jeu qui est long, qui est lent, ou les deux. Ça prend du temps de faire une partie de Chrysopée, et c'était voulu. Et puis j'y ai mis, donc c'est un univers original, disons, mais qui est très inspiré par des œuvres qui m'ont beaucoup marqué, notamment les Cités Obscures, qui sont des bandes dessinées qui sont toujours en cours d'ailleurs, parce que de temps en temps, Schmitten et Peters en ressortent une nouvelle itération, mais ce sont des bandes dessinées qui sont graphiquement assez merveilleuses et qui racontent des histoires très variées dans des environnements un peu mélancoliques, disons. Parce que Schuiten est architecte à la base, donc c'est aussi une façon pour lui d'expérimenter des ambiances et des styles architecturaux. Et ça, mine de rien, ça a beaucoup influencé Chrysopée. La Horde du Contrevent, parce que le voyage, l'exploration, le dépassement de soi, ce sont des thèmes qui me parlent à titre personnel. Et puis, les Miyazaki, forcément, pour le rapport à la nature, pour le côté un peu magique, disons. Et pour ces ambiances, pareil, un petit peu tranquille et un peu nostalgique, mais pas dénuées de violence, par ailleurs. Et ensuite, en termes de système pur, des jeux comme les œuvres de Sens de Romaric, tout le travail de Frédéric Sintès sur comment créer un système de jeu qui ne se repose pas forcément sur des dés, toutes les discussions qu'on a pu avoir avec Fabien sur ses propres jeux, tout ça, c'est rentré dans Chrysopée d'une façon ou d'une autre.
Alors, tu as cité plein d'inspirations de fiction, et j'ai remarqué étonnamment, tu n'as pas cité, il me semble, de fiction épistolaire. Je vais prendre un exemple, mais c'est pour nos auditeurs. Si on prend par exemple le roman Dracula de Bram Stoker, donc on l'appelle épistolaire parce qu'il est uniquement composé de lettres ou de journaux intimes que les personnages du roman écrivent ou dictent. Et finalement, du coup, ce sont ces lettres, ces journaux et à travers eux les personnages du roman qui nous racontent l'histoire et qui du coup dévoilent leurs sentiments. Il n'y a pas de narrateur omniscient comme dans beaucoup d'autres types de fiction. Et toi, c'est quoi tes fictions épistolaires favorites et qu'est-ce que tu y trouves ?
Alors, je pense que si je ne cite pas de fiction comme... Alors, je vais faire une confession. Je n'aime pas du tout Dracula de Bram Stoker. Ce que la pop culture en a fait par la suite est très intéressante. Et je sais qu'il a fait date dans l'histoire de la littérature. Mais de mon point de vue extrêmement personnel, je trouve le Dracula de Bram Stoker assez mal écrit. Enfin, disons que ça m'a assez mal écrit pour moi. Enfin, moi, je me suis beaucoup ennuyée en lisant Dracula, mais c'est probablement aussi parce qu'il est devenu tellement, c'est une part tellement intégrante de notre univers, les vampires, etc., que je pense que je m'y suis ennuyée parce que je le connaissais déjà. Enfin, je sais pas trop comment dire.
Je vois.
Mais en t'écoutant parler, je me suis rendu compte que les supports épistolaires qui m'ont marqué ne sont pas des livres. En fait, ce sont des jeux vidéo. J'ai deux jeux vidéo en tête qui font vraiment date pour moi, où l'épistolaire a une place importante. Et au final, je pense qu'ils ont plus influencé Chrysopée que des fictions épistolaires, ou des livres ou des romans qui feraient ça. Je vais les faire par ordre chronologique. Quand j'étais petite, mon oncle m'a offert un jeu vidéo qui s'appelait Les Carnets de l'Oncle Ernest, qui est un petit point-and-click absolument formidable, où au fur et à mesure de l'aventure, on complète un carnet qui nous a été donné par notre oncle Ernest. Et le carnet lui-même est interactif, c'est-à-dire qu'on peut faire apparaître des éléments sur les pages, les déplacer, les faire interagir avec le papier, même parfois c'est important, pour débloquer des trucs et continuer à avancer. Et donc, il y a ce carnet-là, où l'oncle Ernest nous laisse des notes, des indications, des dessins, voilà, pour progresser, et qu'on peut nous compléter avec des notes à nous, et sur lesquelles on a une vraie influence. En termes de gameplay, ce jeu est merveilleux. Le deuxième jeu qui m'a énormément marqué, c'est Myst, qui est un point and click. Alors, Myst est le premier épisode de toute une série, puisque après Myst viendra Myst Riven, Myst Exile, et ainsi de suite. Et il y a 5 opus en tout. Moi, j'ai surtout joué à Riven, et j'y ai joué avec mon papa. Et j'étais assez jeune à l'époque. On y a passé 6 mois. Le jeu est dur. C'était formidable. Et c'est un jeu où on crée des mondes en écrivant dans des livres. Alors, pas nous, le personnage, mais le jeu est fait par incrustation de vidéos. C'était une technique qui était assez peu répandue à l'époque. Les acteurs sont filmés sur fond vert et puis ensuite, ils sont intégrés dans le jeu. Ce qui fait qu'il y a un côté très réaliste parce qu'ils ne sont pas dans une 3D moche. C'est vraiment, ils ont vraiment ce côté cinématographique. Et ces personnages que l'on croise ont ce pouvoir qui est que lorsqu'ils écrivent dans des livres, eh bien, ils créent des mondes, ce qu'ils appellent des âges. Et on peut passer d'âge en âge en trouvant les livres et en s'en servant comme portail. Et donc, on trouve beaucoup de textes dans ce jeu. On peut lire des notes qui ont été prises par les personnages et ça nous permet de résoudre des énigmes. Myst est un jeu, est un point and click de réflexion, d'énigmes, avec des puzzles, avec des choses cachées. Et j'aime beaucoup ce jeu parce qu'on te lâche là-dedans sans rien te dire qui tu es, ce qu'il faut faire, où tu dois aller, rien. Et tu te débrouilles tout seul. Et c'est un jeu pour lequel j'ai une affection profonde. Et en fait, les fictions épistolaires qui m'ont marqué et qui ont marqué la création de Chrysopée, je pense que ce sont ces deux jeux vidéo-là.
Et alors du coup, comment est-ce que tu as essayé de retranscrire en jeu de rôle ce que tu trouvais, ce qui t'attirait dans ces jeux épistolaires ?
Ce que je trouvais vraiment bien, alors c'est surtout valable dans les aventures de l'oncle Ernest, mais je l'ai déjà dit, c'était le fait que c'était interactif et que le livre servait de dialogue. Alors, en l'occurrence, dans le jeu vidéo, de dialogue entre un personnage fictif et le joueur. Mm-hmm. Et ce n'est pas juste un dialogue entre deux personnages dont on se contenterait de suivre les aventures, un peu comme dans un roman épistolaire, finalement. C'est vraiment le stade où le contenu du livre va évoluer et n'existe que parce qu'il y a un échange entre toi et, en l'occurrence, un personnage fictif. C'est le principe d'une correspondance, c'est qu'on ne sait jamais ce que va être la suite. Elle n'est pas fixée, elle n'existe pas, et elle nécessite de s'adapter, de créer avec quelqu'un. Et c'est tout l'enjeu de Chrysopée, d'ailleurs, ça a été de trouver un moyen pour que, même sans mettre du jeu, les personnages puissent créer l'un avec l'autre. Mais c'était ça l'idée. C'était, Chrysopée doit être, non pas un récit, mais doit être un voyage interactif. En l'occurrence, ça se passera par le truchement de la lecture des mots, plutôt que de la parole, comme c'est le cas en jeu de rôle classique. Mais fondamentalement, le principe, c'est le même. C'est une conversation. Papier, mais une conversation quand même. Et l'idée que je voulais implémenter, c'était le fait qu'on puisse non pas seulement écrire, mais adjoindre des éléments qui soient, ce qui est somme toute assez classique dans les carnets de voyage, des croquis, des photos, des objets, des échantillons de ce que tu veux, et que ce côté matériel puisse lui aussi faire avancer l'histoire. On l'a tous fait, on l'a tous fait, c'est une généralité atroce, mais je pense que beaucoup de gens ici vont comprendre de quoi je parle. On regarde quelque chose de la vraie vie et on s'amuse à lui trouver une autre histoire. Moi, je fais ça beaucoup. Quand je visite des lieux, parfois, je me dis, ah, je ne suis plus tout à fait dans un musée, mais je suis dans une allée de société secrète. Voilà, parce que ça m'amuse d'inventer ce genre de, s'avancer ce genre de fiction pour moi-même. Et bien, Chrysopée, c'est exactement comme ça que ça marche. Les photos, les échantillons, les objets sont réels. Quand vous prenez en photo, vous prenez en photo le monde réel. Mais le principe, ça va être de leur trouver une autre histoire dans l'univers de Chrysopée. Je reprends mon histoire de société secrète. Ce jour-là, vous êtes allé au musée, il y avait une jolie lumière qui passait dans le hall du musée. Vous la prenez en photo. Et dans votre récit avec votre partenaire de jeu sur Chrysopée, votre personnage est en train d'explorer un temple ancien. Et bien du coup, vous, sur la lettre que vous vous apprêtez à envoyer, vous joignez la photo de cette allée de musée. Et cette allée de musée n'est plus une allée de musée. Dans votre partie de Chrysopée, elle devient une aile du temple que vous venez de découvrir et vous avez très très envie de raconter à l'autre joueur ce que vous y avez découvert. Voilà. Et faire ça permet de faire avancer la partie.
Oui, donc c'est vraiment un jeu qui se nourrit du réel de cette façon-là. Mais ce dispositif via les lettres, donc tu as raconté à quel point est-ce que ça ajoutait des choses qu'on peut faire. On a plus de temps, on peut aller, comme tu disais, prendre un élément du monde réel, prendre une photo, le rajouter, cet élément ou cette photo à sa lettre. Et donc voilà, ça rajoute des choses par rapport à ce qu'on est capable de faire quand on est bêtement autour d'une table de jeu de rôle. Mais aussi, ça restreint beaucoup de choses dans les canaux de communication qu'on peut avoir. On a plus le son de la voix, on n'a plus la gestuelle, on n'a plus éventuellement une musique, on n'a plus le bruit des chips, mais bon, ça, à la limite, on pourrait s'en passer. Qu'est-ce que ça apporte comme ça de contraindre la conversation par la forme?
J'ai des visions de mon prof de prépa qui me disait avec un air très sérieux, la contrainte, c'est la liberté. En fait, contraindre, c'est juste donner une forme. C'est un moule. Effectivement, avec un moule carré, tu peux pas faire des trucs ronds ou pas très bien. C'est pas grave, les moules ronds font des ronds très bien. Moi, j'avais envie, effectivement, que ça puisse se jouer à distance, que ça puisse se jouer sur le temps long. Et je pense qu'il y a des gens qui aiment jouer en silence. Parce que finalement, c'est ça, hein. Ça n'empêche pas de voir ses amis avec qui on joue à Chrysopée et d'échanger par ailleurs. Mais c'est une façon de jouer qui est une façon de jouer silencieuse. C'est juste une autre approche. Alors, qu'est-ce que ça apporte de contrainte? Ça donne un cadre. Ça donne un cadre et on décide que le jeu, il sera comme ça parce qu'il fonctionne comme ça. Et on peut pas en faire exactement tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aimerait en faire. On peut toujours le déformer, mais... le jeu tel quel, son équilibre, il est là, dans cette forme-là. Alors, c'est une réponse un peu nulle, parce que elle est ni très punchy, ni très terre-à-terre, mais c'est la meilleure réponse que je peux te donner là. c'est que ça donne une direction. Et effectivement, ça a le mérite de dire aux gens, voilà, si vous aimez jouer comme ça, comme ça, comme ça, le jeu va vous plaire. Si en fait, vous voulez jouer comme ça, comme ça, comme ça, bah, jouez à autre chose. Ça évite les déceptions. C'est ce qu'on Bien appelle le contrat social. Pour utiliser les gros mots, c'est un contrat social qui est contraignant, mais qui a le mérite d'être clair. Si c'est un contrat social qui ne plaît pas, ça n'a aucun problème, c'est pas grave. Il y a plein d'autres jeux avec plein d'autres contrats sociaux. Mais au moins, on sait à quoi on joue.
Tout à fait. Mais alors, du coup, est-ce que, si on veut être plus spécifique, est-ce que tu aurais un exemple ou des exemples de moments de jeu? Et je ne parle pas forcément de moments de fiction, hein, mais vraiment de ce que, par exemple, toi, tu as pu ressentir lors d'une partie de Chrysopée, où clairement, avec autre chose que ce dispositif-là, ça n'aurait juste pas existé, en fait.
Alors, est-ce que ça aurait jamais existé? Je ne peux pas. Seuls les sites sont aussi absolus. Mais alors, j'en ai deux. Un qui me concerne moi directement et un qui concerne un duo de joueurs que je ne connais pas personnellement, mais j'ai eu un écho, donc je reste très vague pour pas attenter à leur intimité ou à leur anonymat. En ce qui me concerne directement, j'ai fait une partie test avec un Fabien. Pas le Fabien Hildwein dont je parlais, un autre Fabien. Et la partie a duré plusieurs mois. On n'est pas arrivé au bout, cela dit, mais c'est pas grave. Et Fabien, à un moment, me disait... C'est un peu difficile en ce moment, j'ai pas trop le temps, c'est un peu compliqué. Et j'ai visité une boutique d'une céramiste qui faisait des boules de céramique dans lesquelles elle glissait des petites perles ou des graines. Tu sais, quand on secoue la boule en céramique, ça fait du bruit. C'est un peu comme un bâton de pluie, mais dans une petite boule en céramique. Mmh. Or, notre partie de Chrysopée parlait littéralement, et bien avant cet épisode, de pierres qui chantent. La quête de ce personnage, c'était de comprendre le chant des pierres pour essayer de soigner un environnement qui visiblement était très malade. J'ai vu cette boule, j'ai pensé à lui tout de suite. Je l'ai achetée, je l'ai emballée, et avec ma lettre suivante, je lui ai glissé dans un paquet. Et c'était deux choses à la fois. C'était un élément de jeu, trois même, donc c'était un élément de jeu que, systémique. C'était directement lié à... l'histoire de notre correspondance, à notre quête alchimique, mais c'était aussi un cadeau de ma part parce que je savais qu'il allait pas très bien et c'était du coup une façon de lui faire un petit... Voilà, c'était un petit cadeau pour essayer de d'égayer un peu et de lui dire que je pensais à lui et que je lui souhaitais d'aller mieux. En réponse à ça, il m'a envoyé une lettre qui était une réponse à celle-ci dans laquelle il a glissé un échantillon de tissu que j'ai toujours... qui avait été tissé par une tisserande qui faisait des tissus artisanaux. Mmh. Et on s'est échangé comme ça des micro-cadeaux par lettres interposées pendant peut-être un ou deux allers-retours. Et recevoir une lettre en jeu avec un objet réel, matériel, en sachant toute la portée et réelle et fictionnelle que ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je sais pas, je trouve que ça étend l'empathie. Je ne saurais pas comment l'expliquer autrement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi. Et c'est ultra plaisant. Tu reçois une enveloppe, tu te dis, tiens, elle est un peu lourde, cette enveloppe, c'est bizarre. Tu reconnais son écriture, donc tu te dis, oh, chouette, c'est la suite, c'est la correspondance de Fabien et tout, j'ai trop hâte, il y a l'excitation qui monte, quoi, parce qu'on a reçu une enveloppe, enfin voilà, et qu'on sait de quoi ça parle, mais on sait pas encore ce qu'il y a dedans. On ouvre, on trouve une lettre, on est trop content. En plus, il y a un petit objet, on est là, waouh, j'ai trop hâte de lire l'histoire de ce petit objet qui est probablement dans la lettre que j'ai entre les mains. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Et je sais aussi que j'ai un duo de joueurs. Je crois que c'était il et elle, et lui, à travers ses lettres de Chrysopée, il lui a carrément organisé un jeu de piste dans la ville de Lyon. Il me semble que c'était Lyon, mais je n'en suis pas sûre. Et donc, de lettre en lettre, puisqu'ils habitaient tous les deux à Lyon, il l'a conduit jusqu'à un endroit, une faille dans un mur, si ma mémoire est bonne, mais je peux me tromper, où il avait effectivement glissé quelque chose. Mm-hmm. Qui n'attendait qu'une chose, c'était qu'elle le trouve, l'objet en question.
Ah, c'est chouette, ça.
Voilà.
Et effectivement, on aurait du mal à faire ça autour d'une table avec un paquet de chips, je confirme.
L'imagination des gens me... Mais l'imagination des gens, je sais pas, ça me fascine.
Et puis d'ailleurs, c'est, enfin, quelque part, c'est aussi ça, si j'interprète ton système. Tout à l'heure, tu parlais du carnet de l'oncle Ernest, qui en fait était un jeu, donc le carnet était pré-programmé, il devait y avoir un arbre de quelque chose derrière et qui te donnait des textes, mais là, quand on fait un jeu de rôle à deux, rien n'est prévisible parce que c'est quelqu'un qui est en face, et justement, c'est l'imagination de la personne en face qui te répond.
Est-ce que c'est pas incroyable? Genre, l'histoire n'a plus de limites, à part l'univers que j'ai laissé volontairement vague et plein de trous comme un gruyère pour que les gens le remplissent, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Et j'adore ça. Le fait que les gens puissent se surprendre les uns les autres mutuellement, que quelqu'un se serve du tremplin qui est un jeu pour avoir une idée et se dire « Allez, vas-y, je fais un jeu de piste. » C'est fou.
Oui, c'est complètement dingue et c'est génial. Je voulais évoquer un autre point sur le fait de passer par des lettres. Enfin, je pense que tu en as déjà un tout petit peu parlé. Tout à l'heure, tu parlais des gens qui aimaient jouer en silence. Est-ce que il n'y a pas un côté aussi, je dirais, rassurant de passer par des lettres, le fait qu'on ait le temps d'écrire, de préparer sa correspondance, on a un contrôle sur le médium qui est peut-être plus... Enfin, plus posé, quoi. Pas forcément plus fin, mais plus posé que ce qu'on a quand on est autour d'une table avec tous les yeux qui se tournent vers nous pour dire « Hey, alors, maintenant, tu fais quoi ?» Et puis, un autre point de rassurant, enfin, qui peut être rassurant pour certaines personnes, ou dans certains contextes, il y a aussi... il n'y a pas de proximité physique non plus. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as pensé quand tu as écrit ce jeu-là? Ou est-ce que c'est des choses... Qui font écho à certaines expériences que tu as pu avoir avec ce jeu?
Alors, honnêtement, je ne me rappelle plus si c'était conscient au départ. Je ne pense pas. Par contre, une fois que le jeu est sorti, que j'ai eu des retours un peu d'expérience, et puis maintenant que j'ai aussi un peu de recul sur le jeu, clairement, pour des gens, ça peut être un moyen de jouer tout en respectant leurs limites. Je sais que le fait de prendre la parole en public, le fait d'être entouré par des gens, c'est pas un problème pour moi. Et je pense que quand j'ai écrit le jeu, j'avais pas ce recul pour envisager que ça puisse être important pour d'autres. Mais par contre, il est vrai que si on se sent mal à l'aise avec l'idée d'improviser comme ça sur le vif avec des gens, c'est un moyen quand même de faire du jeu de rôle. Ça peut aussi marcher très bien pour des gens qui ont vu faire du jeu de rôle et qui sont à l'hôpital, par exemple, et qui voudraient jouer, mais qui peuvent pas forcément avoir des visites. Alors, j'ai eu le cas, par exemple, de jeunes parents qui avaient envie de faire du jeu de rôle, mais de façon assez évidente, avec les petits dans les bras, c'était pas facile d'inviter des gens. Donc en fait, dès qu'ils avaient un peu de temps ou pendant les nuits blanches, ben ils jouaient un petit peu. J'ai eu le cas de professeurs de lettres, hein, notamment, qui ont utilisé Chrysopée dans leur classe. Donc ça leur a servi de briseur de glace, d'icebreaker, d'atelier pour permettre aux élèves de communiquer entre eux. Voire même, je crois qu'il y en a qui l'ont fait avec leurs correspondants étrangers.
Ouais, et par écrit, ce qui peut être...
Oui, et du coup par écrit. Donc, en fait, on peut imaginer plein de... Il y en a qui ont acheté Chrysopée parce qu'ils avaient des amis à l'étranger, extrêmement loin, mais qu'ils avaient quand même envie de faire du jeu avec eux et que le décalage horaire, c'était pas simple. Et puis, Chrysopée a beaucoup servi, semble-t-il, pendant le confinement.
Ah oui.
Voilà, parce que, effectivement, ça permettait de continuer à jouer pour des gens qui n'étaient pas forcément à l'aise avec le dématérialisé de Discord vocal. Et bien, il y a des gens qui se sont écrit des lettres parce qu'ils avaient le temps aussi. En fait, le fait d'avoir le temps, c'est un peu à double tranchant. Oui, clairement, c'est très positif, parce qu'effectivement, ça permet d'avoir le contrôle, ça permet de prendre le temps, ça permet de soigner le fond et la forme, et de vraiment composer un petit objet, que ce soit l'enveloppe, la lettre, l'écriture, le stylo, les objets ou pas qu'on met dedans. Ça permet de composer un petit élément unique, de prendre le temps pour le faire. Ça a quand même le désavantage, il faut le dire. La meuf, elle vend super bien son jeu, t'as vu. Ça a quand même le désavantage de demander une certaine discipline. Et je dis pas ça pour dire que les gens qui arrivent pas sont des indisciplinés. Hein. Ça demande un effort, c'est vrai, parce que la réalité a tendance à rattraper les choses un peu lentes et à les engloutir quelque part. Au début, on est motivé, on est un peu assidu, et puis ensuite, on a plein de choses à faire, et on se dit, ah, ben, j'écrirai ma lettre demain, après-demain, etc. Puis, les échanges de lettres peuvent être vraiment très longs. Ce qui fait qu'à un moment donné, un peu comme les campagnes de JDR qui finissent par s'étioler parce qu'on n'arrive jamais à trouver une date où il y a tout le monde, bah, c'est un peu le même principe. Enfin, je veux dire, Chrysopée n'échappe pas à ça.
Et c'est peut-être que c'est aussi ce que tu racontais tout à l'heure avec ta campagne qui ne s'est pas terminée. C'est des choses qui doivent arriver. Enfin,
oui, ça arrive.
Chrysopée qui ne s'est pas terminée. Ouais.
Ça arrive très souvent. Les gens s'éloignent, on est des amis, puis à un moment donné, je sais pas, on se froisse, on arrête d'être des amis, on arrête de jouer. Mais ça, c'est le. Toutes les campagnes de jeux de rôle souffrent de ça. Le fait que ce soit. Qu'on ne se voit pas, et donc qu'il faille attendre systématiquement que l'autre intervienne, c'est à la fois une force et ça peut être une faiblesse aussi. Mmh, alors, moi, je parle de lettre papier depuis le début. En réalité, il est possible de s'envoyer des mails, hein, parce que je sais bien aussi que le papier, les timbres, la poste, ça coûte cher. Les mails, ça a l'immense avantage d'être gratuit. Et je ne connais pas grand monde qui n'a pas une adresse mail, donc c'est plus simple. Ça se rapproche un peu, quelque part, du jeu de rôle sur forum. Je ne sais pas si tu as fait ça.
J'allais justement t'en parler. Justement, j'ai fait ça beaucoup à une période. Je vivais à l'étranger et c'était une super façon de jouer, d'interpréter un personnage. Pas du coup de façon asynchrone, on n'avait pas besoin d'être là en même temps que les autres. Parfois, on essayait des petits effets littéraires, on se piquait d'une certaine plume, ou pas du tout, hein, c'était suivant ce qu'on voulait faire. Mais ouais, il y avait un côté comme ça, une forme épistolaire que je retrouve. Et justement, c'était la question que je voulais te poser. Pour les gens qui connaissent le jeu par forum, hein, parce qu'il y a quand même, il y a quand même toute une population qui a joué ou qui joue encore finalement de façon épistolaire comme ça. Qu'est-ce qu'apporte le dispositif de Chrysopée par rapport à ce genre de jeux par forum qui, entre guillemets, ça existe déjà. Enfin, voilà. C'est volontairement provoque, bien sûr.
Oui, bien sûr. Mais en vrai, la question mérite d'être posée parce que, tu vois, genre, j'y réfléchis. Alors, je peux trouver des choses, mais est-ce que c'est vraiment si incroyable et essentiel? Déjà, tu as toujours la possibilité de switcher sur du papier si tu en as envie. Rien, une campagne commencée sur mail ou par papier, tu peux switcher de l'un à l'autre, c'est pas un souci. Donc, si tu le fais, et moi je considère que ça peut être un avantage, tu auras le plaisir d'avoir une lettre papier entre les mains, écrite probablement de façon manuscrite, et mine de rien, dans l'écriture de quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui passent. Pas seulement des informations, mais c'est beau, c'est des beaux objets. Moi, quelque part, je me découvre beaucoup plus matérialiste que ce que je pensais, mais... Mais disons que t'es pas contraint par le... Tu peux changer de support si ça te fait plaisir. Après, si tu veux tout faire par mail, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Je pense que par forum, ça doit pouvoir se faire, mais c'est pas tellement comme ça que c'est joué. Quand les gens jouent à Chrysopée par mail, parce qu'ils veulent éviter la poste, parce que c'est loin, parce que ça coûte cher, et ce que je comprends complètement, ils écrivent des lettres, en vrai, et ils se les scannent. Ah. Et ils se les mettent en pièces jointes des mails. Donc en fait, le mail remplace la poste, mais le mail ne remplace jamais la lettre papier. Enfin, c'est très rare.
Oui, d'accord.
J'ai toujours eu des exemples de gens, parce qu'au final, les gens avaient envie de crayonner, de rajouter des trucs, parce que tout d'un coup, tu décides d'écrire un truc en gras, de le souligner 4 fois, ou de mettre un petit gribouillis dans tes lettres. C'est moins austère que du jeu sur forum, parce que moi, j'ai toujours trouvé les forums actifs très moches. Très moche et très austère. Et du coup, t'as moyen quand même de faire quelque chose d'un peu plus personnel que les forums actifs.
Oui, oui, tout à fait.
C'est la différence fondamentale que moi je vois avec.
Alors, on a beaucoup parlé du dispositif de jeu, mais il y a aussi dans le système au sens large, enfin dans le jeu, quoi, finalement, il y a aussi tout un côté. Fiction, univers, Et donc, les deux personnages qui s'envoient des lettres dans Sur la route de Chrysopée, c'est pas n'importe qui, n'est-ce pas ?
Non, en effet. Je vais essayer de faire ça proprement. Les personnages sont ce que j'appelle des alchimistes. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils pratiquent l'alchimie au sens où on l'entend de façon commune, la quête du plomb en or ou de la pierre philosophale. Pas que ça peut, mais il faut entendre alchimiste au sens de ce sont des individus qui ont une quête qu'ils partagent, ils sont unis par une même quête, le maître et son disciple ou sa disciple, peu importe. Ça peut être la maîtresse d'ailleurs, non, c'est pas genré, toutes ces choses-là. Et ces deux alchimistes ont ce projet qui, à terme, changera le monde, d'une façon ou d'une autre. Ça transformera l'univers. Et pour cela, ils ont besoin de passer par des étapes qui sont les étapes de l'alchimie classique. Alors, ce sont des étapes symboliques, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, l'œuvre jaune, l'œuvre noire. Leur objectif étant que, après toutes ces étapes, ils atteignent Chrysopée. Mmh. On ne sait pas exactement ce qu'est Chrysopée. On l'appelle la cité aux portes d'or, et on sait que derrière ces portes, il y aura l'accomplissement de la quête. Est-ce que Chrysopée est une cité réelle ? Est-ce que c'est une cité mythique qui, au final, un symbole pour la connaissance ultime ? Est-ce que c'est simplement la métaphore du but accompli ? Ça, ce sera aux personnages qui l'atteindront d'en décider.
Mmh.
Et ils évoluent dans ce qu'on appelle le monde tout autour. Le monde tout autour est régi par un principe fondamental qui est le vent. Il y a des zones où les hommes ont favorisé la présence du vent. C'est ce qu'on appelle les zones aérées, parce que le vent permet des communications plus rapides, il permet des déplacements plus rapides, il fait tourner les moulins, il permet l'industrie, la science, les découvertes. Le vent, c'est beaucoup de choses, et c'est tout ça. Et il y a des zones qu'on appelle les zones immobiles, qui ont été préservées ou privées de l'influence du vent. Et ce sont des zones beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus calmes, beaucoup moins avancées technologiquement, pour le meilleur ou pour le pire. Et le vent ayant cette capacité à éroder ce qu'il touche avec le temps, ce sont aussi des zones dans lesquelles il y a beaucoup de témoignages anciens. Et c'est un univers dans lequel il y a des cités entières qui sont montées sur des hélices, qu'on appelle des citadelles. Il y a des caravelles qui parcourent le ciel. Il y a des cités qui sont bâties dans les nuages. Et il y a des zones où il n'y a pas un bruit. Et au milieu de tout ça, tu trouves des scientifiques, des explorateurs, des gens qui se font la guerre, des chars à voile, des tribus nomades, des religions païennes, du symbolisme et tout ce que tu veux y mettre.
Et donc un univers très riche, qui donne vraiment très envie, enfin, littéralement il incite au voyage.
Il est fait pour ça.
Ça donne tout de suite très très envie d'y mettre les pieds. Et du coup, comment est-ce qu'il est décrit ? Enfin, est-ce que tu l'as décrit de façon encyclopédique ? Est-ce que c'est plutôt des grands principes ? Comment ça fonctionne, la façon dont tu fais passer l'univers dans le livre ?
J'ai essayé de fixer un cadre qui soit suffisamment solide pour que tout le monde ait le même. Et comme j'ai dit, je l'ai pensé comme un gruyère. Donc, un peu comme dans les carnets de voyage, puisque Chrysopée, finalement, est un carnet de voyage, le monde tout autour est décrit à la fois dans ses principes, avec des paragraphes un peu théoriques, comme je viens de le faire. Il y a aussi des mots-clés qui permettent éventuellement de comprendre les intentions derrière les grands principes du jeu, typiquement les zones immobiles et les régions aérées. Et puis, j'ai également donné quelques lieux que j'ai voulu un peu emblématiques, que je décris un peu à la manière d'un carnet touristique, si on veut, pour expliquer un peu ce que sont ces lieux, à quoi ils ressemblent, donner des pistes, des évocations de personnages ou d'événements qui ont eu lieu à ces endroits-là, et que les joueuses sont libres d'utiliser ou pas pour leur propre fiction. Il y a aussi une carte du monde tout autour qui a été dessinée par Marion et qui donne un petit peu forme à ces choses-là et qui pose un peu quelques contours et quelques positions dans l'espace. Et ensuite, les gens sont libres d'utiliser ce que je leur donne ou de créer leur propre cité. Parce que le monde tout autour, au final, est très, très vaste. Donc, l'idée, c'était plutôt de leur fournir des escales qui leur servent de tremplin ou de canne s'ils ont besoin de, d'un peu d'aide pour créer leur chose. Mais en fait, ils pourraient très bien inventer tout leur périple si le cœur leur en dit, tant qu'ils respectent effectivement les grands principes du jeu. L'objectif, c'était que ce monde tout autour puisse être découvert, décrit et parcouru par tous les joueurs en même temps.
Mmh.
Il existe un site internet qui est un supplément, entre guillemets, à Chrysopée, qui s'appelle les archives suspendues, qui est librement accessible sur internet, et où, si on en a envie, les joueurs peuvent envoyer des extraits de leur correspondance ou proposer des destinations qu'ils ont inventées. Ce qui fait que, en fait, c'est collaboratif. Si, c'est comme une grande bibliothèque. Si tu as envie d'aller chercher de l'inspiration, tu peux aller piocher dans les archives suspendues, des lieux, des événements, des personnages, des théories. Ou alors, tu peux carrément contribuer en envoyant les tiennes.
Ah, c'est super cool. Et du coup, il y a toute une communauté finalement qui se fédère autour de ce jeu et via ce site, du coup.
Alors, les joueurs de Chrysopée, de mon expérience, sont des joueurs qui sont assez discrets. Mais j'ai eu quelques joueurs qui m'ont proposé des extraits à mettre en ligne. Certains qui m'ont carrément confié leur correspondance une fois qu'ils ont achevé leur partie. Alors, soit parce qu'ils ont terminé la campagne, soit parce qu'elle s'est juste arrêtée. Et c'est formidable parce que les archives suspendues existe dans l'univers de Chrysopée. C'est effectivement une bibliothèque sur la mer de nuages qui est dédiée au récit des explorateurs. Et si on veut trouver de l'aide ou des informations, on peut aller aux archives suspendues pour feuilleter ces rayonnages et mettre la main sur des récits, sur des journaux, sur des cartes. Et donc, quand les joueurs, à la fin d'une campagne de Chrysopée, m'envoient leur correspondance et me disent « on voudrait bien qu'elle soit sur les archives », ils font précisément ce que le jeu demande aux explorateurs. Et ils le font en vrai.
Ah, encore ce mélange entre la fiction, le jeu, la réalité.
Oh, c'est fou. Là, je dois tout à Monsieur Briand. Hein.
Oui, mais c'est sympa.
Mais oui, c'est très sympa. Voilà. Et donc, si effectivement les futurs alchimistes, les futurs explorateurs de Chrysopée ont envie de laisser une petite trace de leur passage dans le monde tout autour, eh bien, ils peuvent envoyer quelque chose à l'éditeur qui le mettra en ligne.
Juste pour être complètement clair, c'est pas un site dynamique dans lequel on peut venir taper un texte ou coller une image et qui va rester là, c'est quelque chose qui passe du coup par ou par l'éditeur, c'est ça?
Exactement. C'est pas en direct. Alors pour plusieurs choses. Déjà parce qu'il faut quand même surveiller un tout petit peu le contenu. On n'est jamais à l'abri de bots malveillants parce que ça permet de le mettre en forme proprement. Et puis, parce que c'est ce travail de transmission-là. En fait, parfois, les gens nous envoient carrément des fichiers zip hein, avec 4 lettres à l'intérieur. Donc, ça permet aussi de les agencer comme il faut, de leur faire un petit écrin, de tout remettre en ligne après.
Et du coup, l'équivalent des archives suspendues existe dans les autres langues, en italien et en anglais?
Les archives sont traduites en italien et en anglais.
Oh, avec du coup... Enfin, quand tu dis traduite, c'est les éléments qui étaient sur le site francophone qui sont passés en italien ou c'est les contributions des joueurs et des joueuses italiens ou italiennes qui sont ajoutés sur le site italien?
En fait, c'est les deux, parce que la traduction, c'est une traduction, c'est un plugin, donc elle est en partie automatique, en partie seulement parce que Chiara passe régulièrement pour vérifier quand même que voilà, le, le plugin fait correctement son travail. Elle a fait un énorme travail sur les archives suspendues, ça lui a pris beaucoup de temps. Donc, gloire à elle. Mais en fait, l'objectif, c'est que si jamais un contributeur anglais envoyait un texte en anglais, ce serait évidemment visible sur les archives en anglais. Mais normalement, si le site fonctionne correctement, cette contribution est traduite en français.
Ça, c'est si ce sont des textes informatiques. Mais j'imagine que si on envoie des images de lettres, ça va.
Ah oui, là, malheureusement, elles seront. C'est des images, quoi. Donc, oui. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. Mais on reçoit plutôt de. En fait, les archives suspendues ont été mises en place avant les traductions en anglais et en italien. Donc, à l'époque, je n'avais que des contributeurs en français. Donc, c'était très facile avec un plugin de faire des widgets de livres que les gens pouvaient feuilleter, donc où les pages étaient tout simplement des images. Là, effectivement, on est limité. Mais quand les gens envoient du texte, ou du texte plus des pièces jointes images, on peut les réagencer et ensuite, du coup, on peut les traduire et on peut en faire profiter la communauté internationale des joueurs de Chrysopée.
Et alors du coup, comme on est en train de reparler des versions internationales, on a l'image que atteindre l'audience anglophone, ça peut être une opportunité énorme pour un jeu. Tu as une idée de la diffusion de Sur la route de Chrysopée en anglais par rapport au nombre d'exemplaires que tu as pu vendre en français?
Alors pour être très honnête avec toi, non, j'ai pas les chiffres. Je sais simplement que le fou lancement de Chrysopée en anglais avait atteint une coquette somme de plusieurs milliers d'euros. Et j'en remercie encore évidemment les contributeurs, où qu'ils soient dans ce monde. Il y a des gens qui l'ont commandé pour eux-mêmes directement depuis le fou lancement, une contrepartie classique. Mais je sais aussi qu'il y a deux diffuseurs, donc un Canadien et un Américain dont le nom m'échappe, qui ont demandé un petit stock de livres papier pour leur propre réseau de diffusion.
Ah, c'est pas mal ça.
Et il me semble que pour l'un d'eux, notamment, ça a très bien fonctionné et donc il en a redemandé une deuxième fois. Voilà, c'est très vague, c'est très flou, mais je sais qu'il a été recommandé par un diffuseur américain. Donc je ne sais pas exactement combien il en avait demandé. Donc j'imagine peut-être qu'il y a 100 ou 200 exemplaires qui se sont baladés avec lui, quoi.
Ah oui. Là, j'ai trouvé, pendant qu'on parlait, la page du coup du fou lancement anglophone.
Est-ce que j'ai dit des bêtises?
Et il y a déjà, il y a 141 contributeurs. Et si tu dis que là-dedans, il y a des contributeurs qui sont des distributeurs,
oui, il y en a au moins un.
Voilà, ça rajoute, enfin, si ça se trouve, ça rajoute pas mal au nombre de diffusion, ouais, tout à fait. Alors, tu nous as parlé du parcours de Sur la route de Chrysopée. Est-ce que ce jeu était la réponse à autre chose, à un autre jeu de rôle, par exemple? Et maintenant, avec du coup 9 ans d'aventure éditoriale dans les pattes et puis plein d'autres choses dans ta vie, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu aurais? Est-ce que tu aurais des réponses à donner à d'autres jeux maintenant?
Je peux assez facilement répondre à ta première question. La deuxième, j'en suis pas certaine. Mais pendant que je réponds à la première, j'aurais peut-être des idées pour la deuxième. Effectivement, Chrysopée, quand je l'ai sorti, c'était une réponse à De Profundis. De Profundis, c'est un jeu épistolaire qui est à peu près le seul que j'ai réussi à trouver à l'époque où j'ai écrit Chrysopée. De Profundis est effectivement un jeu de rôle épistolaire écrit par un auteur polonais, Michal Horacz, qui s'inspire de l'univers de Lovecraft. Donc déjà, le livre de règles, si on veut, se présente comme un ensemble de lettres donc on peut feuilleter et qui explique comment jouer au jeu. C'est un jeu dans lequel il n'y a quasiment pas de système de jeu du tout. Il explique comment faire intervenir des éléments, comment écrire bien, comment faire quand on a des idées, où aller s'inspirer, etc. Mais il n'y a pas de système à proprement parler, il n'y a pas de moyen de mesurer une progression, une réussite, une défaite. Enfin, c'est vraiment un jeu littéraire.
Oui.
Voilà,
oui.
C'est un jeu littéraire. Après, il y a peut-être des gens qui ont joué à des profundis et qui vont sortir les piques et qui vont venir me brûler parce que je raconte n'importe quoi, mais vraiment, à la lecture du jeu, j'étais un peu embêtée parce que moi, je l'avais lu dans l'espoir de pouvoir m'appuyer sur des choses déjà existantes pour créer le système de Chrysopée, sur lequel je me posais beaucoup de questions. Eh ben, me v'là fort dépourvu à la fin de la lecture de des profundis parce que c'est une belle explication de comment écrire des jolies lettres dans l'univers de Lovecraft, mais il n'y a pas de système de jeu comme moi je l'attendais. Et donc effectivement, Chrysopée, alors c'est pas une réponse, mais en tout cas c'est une tentative de pallier à ce que je percevais comme un manque, c'est-à-dire effectivement un jeu de rôle au sens propre du terme, avec un système de jeu qui soit tangible et qui soit pas du genre juste tu proposes des trucs et je rebondis tant que j'ai de l'inspiration. Parce que déjà que Chrysopée est un jeu gruyère, si en plus les gens n'ont pas des marches sur lesquelles s'appuyer pour avancer, je me suis dit les pauvres ils y arriveront jamais. Mm-hmm. Et j'avais pas non plus envie de tomber dans ce qu'on appelle le principe de Chéguet où on invente sa propre opposition.
Mm-hmm.
C'est assez limité ce phénomène-là. Au début, c'est rigolo, mais c'est un peu comme le joueur d'échecs qui joue tout seul dans sa tête. Quand on sait comment les deux parties jouent, les blancs et les noirs, quand on pilote les deux camps en même temps, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de surprises.
Oui, oui, oui.
Et du coup, on ne fait pas appel aux mêmes ressources. Et au final, on se rapproche plus d'un roman comme Dracula, où l'auteur décide de tout, des péripéties et de leur résolution. Alors que moi, j'avais envie quand même que le jeu fonctionne sur de la surprise. Et donc, il a bien fallu que je trouve un système pour faire en sorte que les joueurs puissent se proposer mutuellement de l'opposition sans pour autant les laisser seuls au monde à décider quoi faire, donc en leur donnant des repères pour pouvoir construire cette opposition.
Qui est-ce qui propose l'opposition, du coup? C'est
le joueur d'en face.
Le joueur d'en face propose l'opposition. D'accord.
Exactement. Le maître et le disciple, et on me pardonnera d'utiliser des mots genrés au masculin par réflexe, ne peuvent pas jouer exactement de la même façon. Par définition, le maître ne peut pas se déplacer comme il aimerait.
Mmh.
Pour une raison qu'il est libre de définir, est-ce que c'est par la vieillesse, par la maladie, par des obligations politiques, familiales, est-ce que c'est parce que il y a trop d'ennemis, il y a un passif trop lourd, il y a de la prison, va savoir. Le maître ne peut pas se déplacer. Et donc, c'est son apprenti qui a ce rôle d'aller explorer.
Mmh.
Donc déjà, ils n'ont pas la même approche. Le maître a de l'expérience, il a des contacts, il a vécu des choses, il a des connaissances que l'apprenti. Mais l'apprenti, lui, il peut voyager, il peut aller explorer. Et donc, du coup, les deux personnages vont se proposer par étapes des défis à relever.
Mmh.
C'est les étapes alchimistes dont je parlais. Voilà. Et donc, effectivement, Chrysopée, pour boucler la boucle quand même, était une tentative de rebondir sur ce que proposait De Profundis et d'aller chercher un peu plus loin. Après, est-ce qu'avec le temps, j'ai d'autres envies? C'est un peu compliqué. En fait, je sais pas si j'ai à nouveau envie d'écrire du jeu de rôle. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais par contre, j'ai envie de raconter des histoires.
Mmh.
D'ailleurs, j'ai écrit un peu des contes enregistrés, audio, et j'ai plutôt envie de faire ça et de laisser le game design à d'autres personnes beaucoup plus prolixes et créatives que moi. Donc, du coup, tu vois, c'est un peu une réponse en autre boudin, j'en suis désolée.
Mmh. Mais du coup, cette forme du conte que tu aimes bien, que tu pratiques du coup en tant que fiction, donc un petit peu comme tu as déconstruit le récit épistolaire pour en faire un jeu, t'aurais pas envie de faire quelque chose avec les contes, la façon dont les contes sont racontés, justement,
si.
pour en faire un jeu?
Si, j'ai un... Alors, c'est pas vraiment un conte. Ah, pour en faire un jeu, j'ai plus envie de raconter des histoires maintenant que d'écrire des jeux. Mais écrire des histoires, ça peut être un jeu. J'ai un très très vieux projet que j'avais commencé avec des amis. Comme c'est mine de rien quelque chose qui prend beaucoup de temps, ça n'a pas vraiment abouti. Mais j'avais envie d'écrire. Tu vois les jeux à texte où tu peux choisir des réponses et ça t'emmène sur une conséquence.
Oui.
Les petits jeux narratifs que tu peux lancer sur ton navigateur internet. Et t'as un, deux, trois choix. Et puis comme ça, éventuellement, tu peux construire un récit.
Oui.
Et ben j'avais envie de proposer cette expérience créative là. J'avais écrit un petit groupe de, je crois qu'il y avait carrément une douzaine de personnages, et j'avais envie que chacun de ces 12 personnages soit interprété, écrit par quelqu'un d'autre que moi. J'écrivais un des personnages, mais les 11 autres étaient écrits par d'autres gens qui avaient envie de raconter leurs histoires. Et par contre, ça nécessitait effectivement de passer par ce petit logiciel qui permet de créer les fictions interactives. Donc en fait, tu crées des arborescences, tu crées la situation 1, puis tu crées l'embranchement, et à partir de l'embranchement, tu crées les embranchements. Voilà, ça fait une arborescence, exactement comme dans un jeu vidéo. Et ensuite, du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu lances le récit ou le jeu, tu peux choisir le personnage que tu veux accompagner, et ensuite, tu as son histoire. Voilà. Certaines histoires ont le droit de se croiser, d'autres fonctionnent toutes seules. Et je donnais moi juste le contexte, donc qui étaient les personnages, et le contexte un petit peu viking post-apo de la narration. Donc c'est pas un jeu au sens où tu peux pas le diffuser à tout le monde, mais c'était un jeu pour 11 personnes, mais c'est carrément un atelier d'écriture.
Oui.
Mais ça c'est un vieux projet que j'ai. J'ai toujours le fichier texte quelque part pour mon personnage à moi. Donc, avis aux amateurs, s'il y a des gens qui ont envie de créer 11 petites histoires pour 11 petits vikings post-apo, on peut en discuter. Après, en fait, le jeu qui fonctionne sur le compte, j'ai envie de te dire, c'est déjà comme ça que fonctionne le jeu de rôle sur table.
Oui.
In fine. Par contre, il existe tout un pan du jeu de rôle que j'aime beaucoup, qu'on appelle le jeu de rôle freeform, qui s'appuie beaucoup sur des choses que tu peux retrouver en grandeur nature, l'utilisation d'objets, l'utilisation du décor, le fait d'interagir avec un espace. C'est le classique de « on est tous autour d'une table et tout d'un coup, le maître du jeu prend un joueur à part pour lui raconter un truc », sauf que tout le monde a le droit de faire ça. Globalement. Sauf que tout le monde fonctionne comme ça. Donc, c'est entre le jeu de rôle sur table et la soirée enquête, sauf qu'il n'y a pas d'enquête, mais peu importe. Et t'as plein de petits jeux comme ça, indé qui reposent sur le freeform et qui sont assez intéressants. Et j'en ai écrit deux, qui sont venus donc après Chrysopée. Into the Woods, qui se joue avec un ruban ou un cordon de robe de chambre. Et en fait, l'histoire progresse parce que, au fur et à mesure du jeu, les deux protagonistes enroulent le ruban qui les relie. Et dès qu'ils se touchent, la partie est finie.
Oh.
Que ce soit volontaire ou que ce soit un accident, la partie est finie. Parce que l'un joue un esprit et l'autre joue un humain. Si l'esprit rentre en contact avec l'humain, c'est terminé, il disparaît. Voilà. Et le but, c'est de raconter une petite fiction voilà, très, très tendre d'une relation qui naît et qui est de toute façon vouée à se terminer, mais pas forcément de façon triste. Et donc, le principe du jeu, c'est vraiment de jouer cette proximité grandissante, au sens vraiment propre du terme. Donc, et ensuite, j'ai fait un test. Il n'a pas été beaucoup joué, donc au final, je ne sais pas s'il fonctionne très très bien. J'ai écrit un jeu qui se joue dans des sacs de couchage.
Un jeu qui se joue dans des
sacs
de couchage.
Dans des sacs de couchage. Le pitch est vraiment tout simple. C'est des amis. Donc, ça se passe en 1969. Ça a son importance parce que c'est le moment où les mouvements hippies ont vraiment de l'importance aux États-Unis. Mais c'est aussi le moment où tu as beaucoup de critiques contre la guerre du Vietnam. Donc, la société américaine est assez tendue autour de toutes ces questions de violence, d'acceptation, de liberté, de liberté d'action, de cadre moral. Hein. Et tous les personnages sont un groupe d'amis. Donc, ça fonctionne avec des prêts tirés que tu peux personnaliser comme les personnages de des jeux qui sont propulsés par l'apocalypse. En fait, ça te sert de canevas. Tu as un archétype et ensuite, tu peux peaufiner certaines molettes en fonction de ce que tu veux jouer. Tous ces archétypes ont une raison d'être là. C'est des amis, ils se sont perdus de vue. Et puis, je sais pas, ils sont un peu nostalgiques de ça. Ils décident de se retrouver. Mais entre-temps, la vie a fait son œuvre. Il y en a un qui est parti au Vietnam, il y en a un qui a déserté, il y en a une qui est mère solitaire avec un enfant à gérer, il y en a qui sont artistes, il y en a qui sont étudiants. Et ils décident d'aller dans les... faire un petit road trip et de passer un week-end dans les bois. Et donc, le jeu commence la nuit, quand le soleil est couché. Ils viennent d'arriver sur place, ils ont sorti la tente, le sac de couchage. Donc, tout le monde est dans son sac de couchage. Et la partie va jouer... C'est quelques heures avant que tout le monde s'endorme, où on essaye de refaire un peu connaissance, on évoque le passé, on parle du futur, éventuellement on dénoue les choses qui n'ont pas été réglées. C'est un jeu sur le pardon. Évidemment, tout le monde a fumé un petit peu, hein, voilà.
Parce donc, qu'on est dans les années 60.
Ouais, voilà. Et, non, mais du coup, l'atmosphère est volontairement un peu détendue et les choses graves sont graves. L'objectif, c'est pas de les nier, mais elles seront traitées avec un petit peu de désinvolture, de légèreté. Voilà. L'objectif, c'est pas de se taper dessus. Et c'est un jeu, effectivement, sur la réconciliation, sur le pardon, sur la communication. Et donc, ça se joue dans un sac de couchage. Et c'est important de jouer dans un sac de couchage et pas autour d'une table, parce que dans un sac de couchage, tu peux te retourner, tu peux te cacher, tu peux faire du bruit, et du coup, tu peux jouer avec ton sac de couchage. Le sac de couchage, j'y joue pour toi. J'ai fait un playtest formidable du jeu où, à un moment donné, un des joueurs pose une question un peu intime et un peu gênante à un autre joueur. Et l'autre joueur, en guise de réponse, s'est retourné dans son sac de couchage. Voilà.
Oui. Mais du coup, ces dispositifs, ce dispositif-là en particulier, on est vraiment à deux doigts de certaines choses qui se font en GN. Enfin, c'est.
J'ai envie de te dire qu'on est dedans. Hein.
Voilà.
C'est pas, si tu veux, c'est pas un GN parce que c'est pas destiné à être joué plus d'une heure ou deux. Parce que c'est quand même essentiellement de la discussion et que finalement il y a pas vraiment d'intrigue. Alors t'es à cheval entre c'est pour ça qu'on appelle ça du freeform, c'est probablement parce que c'est un truc un peu bâtard. Voilà, il y en a qui pourraient dire que c'est du jeu de rôle, il y en a qui pourraient dire que c'est du GN, c'est un peu les deux à la fois sans être vraiment complètement l'un et l'autre. C'est pas très grave. Moi, tu sais, rentrer les choses dans des cases, c'est pas.
Oui.
L'important c'est que ça fonctionne. Mais oui, complètement. C'est complètement ça.
Alors, permets-moi de t'asticoter un petit peu, mais si tu dis non, j'ai plus envie d'écrire du jeu de rôle et je laisse le game design du jeu de rôle à d'autres, pour le GN, tu fais des choses ou...
Alors, je suis beaucoup joueuse. Comme je te dis, j'ai jamais arrêté de faire du GN. J'en fais beaucoup. Maintenant, je vais en faire à l'international parce que j'ai envie un peu de voir ce qui se fait à côté. Ça me donne pas envie d'organiser du GN pour autant. Déjà parce que je n'ai pas la force physique qu'il faut pour ne pas dormir. Cela dit, peut-être sur des formats très courts ou un peu comme ça. Après tout, pourquoi pas? Et en plus, je te dis ça. Et en plus, il y a 15 jours, j'étais chez un ami et on a parlé d'un livre d'un historien qui est juste un truc de dingue, qui parle d'un village occitan en plein milieu de l'Inquisition cathare et de la croisade des Albigeois. C'est un très chouette livre d'anthropologie historique qui s'appelle Montaillou, qui date de 1975, je crois. Enfin, c'est quand même pas un truc récent. Mais c'est une mine d'informations sur ce qu'était la France cathare et médiévale. Et c'est juste super bien écrit, c'est très drôle et c'est bourré de drama interpersonnel. Et par-dessus, tu rajoutes l'Inquisition, les problèmes de pouvoir, les luttes armées, qui couche avec qui. Enfin, c'est génial. Et on s'est dit à un moment donné, on va faire un GN de ça. Les fiches de perso existent déjà, en fait. Hein, c'est des persos qui ont vraiment existé. Juste, on sort les informations, on fait un petit arbre de qui connaît qui par où, on jette l'Inquisition au milieu de tout ça et on regarde ce qui se passe.
C'est pas tout à fait la même chose, mais ça me fait forcément penser. Au jeu de rôle Montségur 1244, je crois, qui n'est pas tout à fait un GN, qui est plutôt un jeu de rôle sur table, mais où il n'y a pas de maître de jeu aussi, et bon, qui est très inspiré de la même période.
Oh bah c'est quand même un truc incroyable. La croisade des Albigeois,
Ah oui.
c'est un truc de fou. Et ce que je trouve génial dans ce petit contexte-là, c'est outre le fait que c'est vraiment des histoires, vraiment des querelles de clochers. En fait, ça parle de religion, bien évidemment, mais ça parle aussi beaucoup de. Ça parle d'emploi, ça parle de dynamique de pouvoir, d'influence, de relations entre la noblesse et les autres. Voilà, et peut-être qu'effectivement, on pourrait en faire un mini truc d'une journée. Et donc, effectivement, je m'en parlais avec cette amie et je lui dis, ça se trouve, on peut, sans effort, les fiches de perso sont déjà écrites, en fait. On sort les infos et on en fait un jeu. Donc, je te dis, j'organiserai rien, et puis tu vois, genre 15 jours avant, bref.
Oui, c'est ça. Les
Voilà.
promesses de release, c'est comme les promesses
Oui,
d'un
bah après,
public.
parce que c'est rigolo aussi de juste prendre un projet, de s'amuser un peu avec. Ça ne veut pas dire qu'on en fera quelque chose, mais
Oui.
j'ai pas de volonté de me dire, ah, j'ai trop envie d'organiser des choses. Non, moi, j'ai juste envie de jouer. Puis quand le jeu est fini, je réfléchis, ah, ça a marché, ça a pas marché, ça, c'était intéressant, etc. Voilà.
Ok, très très bien. Eh bien, j'ai passé aux quelques questions plus relatives en fait au full lancement du coup de la réédition de Sur la route de Chrysopée. De quand à quand c'est commencé là déjà, je
Ça a
crois.
commencé aujourd'hui,
Ça a commencé aujourd'hui quand on enregistre.
à l'heure où nous enregistrons cette formidable émission. Le fou lancement a démarré depuis quelques heures.
Très bien. Et c'est jusqu'à quand?
Jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ça va durer un mois, du coup.
D'accord. Et donc, du coup, quelle forme va prendre le jeu dans sa nouvelle édition? Donc, tu as parlé un peu des différences, mais peut-être de façon plus globale. Enfin, quel genre d'objet est-ce que vont avoir, ou non objet, si jamais c'est électronique, mais vont avoir les gens entre les mains?
Alors, quelle forme ça va prendre? Il y a deux possibilités qui ne s'excluent pas. Il y a la possibilité, effectivement, d'obtenir une copie électronique de Chrysopée, donc c'est un PDF. Et le livre papier, puisque c'est quand même de ça qu'on parle, c'est un très joli petit carnet qui a un format de petite poche en termes de taille, donc comme ça c'est facile à emmener en voyage, tout couleur, avec les belles illustrations de Marion. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un objet qui soit joli et qui évoque les carnets de voyage. Donc, c'est du joli papier, c'est une jolie couverture veloutée. Et il y a un petit élastique pour fermer tout ça, pour que ça fasse vraiment un clin d'œil au carnet des explorateurs. Ça, c'est vraiment la forme dans le livre. Après, du coup, il y a la possibilité de backer le jeu, donc juste pour le plaisir, donc sans forcément obtenir de copie physique ou électronique, mais en échange, on vous envoie une jolie carte postale écrite à la main pour vous remercier, avec une illustration de Marion. Vous avez la possibilité d'acquérir soit la copie électronique, soit la copie papier avec une version électronique, soit deux copies papier pour pouvoir l'envoyer à votre partenaire de jeu si vous en avez déjà un, ou à votre futur partenaire de jeu si vous n'en avez pas déjà un. Et du coup, avec ces deux copies papier viennent deux copies électroniques aussi. Ou alors, si vous avez envie de diffuser le jeu, vous avez la possibilité de baquer pour 5 exemplaires papier. Voilà. Ça répond à ta question.
Tout à fait.
Super.
Et du coup, qu'est-ce que ça apporte en fait de passer par un financement participatif de ton point de vue? Parce que au début, si je me souviens bien, enfin dans la première édition, tu n'étais pas passé par un financement participatif.
Non.
Ouais.
Je ne suis pas passée par un format participatif au début pour plusieurs choses. Déjà parce que j'avais encore un peu de temps pour moi. Donc j'avais envie de tisser ce lien très, très intime aussi avec les acheteurs, puisque chaque copie du livre que tu achetais auprès de moi, je l'emballais moi-même, je glissais un petit haïku que j'écrivais spécifiquement pour la personne. Et je cachetais tout ça et ensuite je mettais tout ça dans un petit paquet que j'envoyais aux gens. Donc du coup, ils recevaient vraiment un objet livre dans son emballage de jeu, hein, puisque on en parle depuis tout à l'heure, avec un cachet en cire et tout ça. Mais ça prend beaucoup de temps, ces choses-là. Ça, c'était pas tellement un enjeu. Puis ça coûte beaucoup de sous parce que mine de rien, j'avais pas envie de passer par une auto-édition via Lulu ou des choses comme ça, imprimée en Chine sur du papier nul. Moi, j'avais envie que ça soit imprimé en France avec un éditeur français, parce que quitte à faire travailler des gens, autant que ce soit des gens à proximité. Et puis parce que je voulais, j'ai toujours voulu que ce soit du tout couleur. Voilà.
Oui.
Donc tout ça a un prix.
Bien sûr.
Parce que je voulais que l'objet soit comme j'avais envie qu'il soit. J'ai quand même fait plusieurs rééditions papier, mais à un moment donné, vraiment, je n'avais plus les sous pour ça. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté l'auto-édition. Mais que j'ai conservé le PDF, que j'ai d'ailleurs gardé à prix libre, parce que si les gens avaient envie de donner 20 euros, eh ben merci beaucoup à eux. S'ils n'avaient pas de sous du tout et qu'ils avaient quand même envie de faire du jeu de rôle, ben ils pouvaient donner 1 euro et ce n'était pas un souci, parce que je n'avais pas besoin de ça pour vivre. Je ne gagnais pas beaucoup de sous, mais j'avais un travail quand même. Donc, c'était vraiment, je faisais ça pour les gens. Et puis, du coup, l'édition italienne et anglaise, je suis assez naturellement passée par un éditeur parce que j'avais pas le réseau, j'avais pas la possibilité de diffuser à l'international et parce que j'avais juste pas la capacité de traduire le texte. Donc le fait que ce soit une petite maison d'édition qui s'en occupe avec beaucoup d'amour et de soin, ça m'a bien plu. Et si je suis passée par eux à nouveau pour l'édition française, c'est pour deux raisons. Déjà parce qu'effectivement, j'ai toujours pas les moyens d'assumer un retour de l'auto-édition, et parce que là, pour le coup, vraiment, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de gérer les copies. Je vis dans un tout petit espace. Je ne peux pas remplir. Je peux pas faire en sorte d'avoir un volume qui fasse suffisamment baisser les prix pour que ce soit faisable pour moi. Et puis parce que mine de rien, en termes de mise en page, en termes de communication. Les éditeurs sont des professionnels qui savent ce qu'ils font et qui ont une vraie compétence que je n'ai pas. Et les auto-éditions de Chrysopée, c'était mignon, j'ai appris plein de choses. Mais quand je vois la qualité de l'édition de Nessun Dove, on est sur un niveau de mise en page, d'étude du texte, etc., qui est bien au-delà de ce que je savais faire.
Alors du coup, est-ce que tu peux citer une trouvaille de présentation, d'ergonomie ou autre qui rend ton jeu plus facile à prendre en main?
Alors déjà, avec leur expérience, et c'est ce que je disais en début d'émission, ils ont suggéré une réorganisation des informations du livre qui rend effectivement les choses beaucoup plus... C'est moins, il y en a un peu moins partout, tu vois, c'est moins fouillis. Ils sont un peu rentrés dans mon grenier et ils ont fait, c'est très joli tous ces petits objets que tu as accumulés là, Morgane, mais il faudrait les ranger maintenant. Et du coup, le grenier est toujours plein de petits objets, mais il est beaucoup plus praticable. T'arrêtes de marcher sur des trucs partout et de te cogner sur le plafond. Ça, c'est vraiment la plus-value. Donc, à la fois esthétiquement parlant, la mise en page est plus jolie, elle est plus léchée, les incrustations de texte, les choses comme ça, c'est quand même... c'est bien plus saillant. Mais même en termes de réagencement des informations, je pense que ça aide quand même beaucoup à la clarté du propos.
Et ce qui est effectivement essentiel quand on a un livre de jeu entre les mains et qu'on veut l'utiliser.
Et oui, et je ne cesse de râler sur des jeux que fondamentalement j'aime beaucoup, mais dont le livre de règles est un cauchemar. Ceux qui ont les éditions d'origine de Warhammer Dark Heresy pleureront probablement comme moi des larmes de sang quand on cherche une info et qu'elle est planquée de façon complètement... Elle est planquée entre 4000 tableaux, voire même les infos sont disséminées entre plusieurs chapitres et du coup, t'es obligé de passer ton temps à feuilleter le livre pour avoir... C'est horrible. À chaque fois que j'ouvre ce livre, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Et donc, c'est vraiment bien d'avoir des gens qui savent ce qu'ils font. Voilà.
Ok, super. Moi, j'arrive à peu près à la fin de mes questions. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
Y a une personne qui est très importante et dont on n'a pas du tout parlé. Et puisque la route de la connaissance ne s'arpente jamais seule, il faut que je remercie Côme, que j'ai vaguement évoqué au début, mais qui est quand même derrière beaucoup de choses sur cette réédition en français. Notamment, il a donné beaucoup de conseils, il a fait beaucoup pour la diffusion de la nouvelle. Et du coup, il faut bien le remercier parce que quand même, il fait partie de la team française. Et que sans lui, je pense qu'on en serait toujours à se demander ce qu'on fait.
Côme Martin, l'ancien taulier de Radio Rôliste.
C'est vrai. Tu te rends compte, on est retourné dans ses terres natales.
Natal, je sais pas, mais...
c'est juste parce que je repensais à Montaillou, et voilà. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Merci beaucoup pour le temps accordé.
Merci beaucoup curiosité. À toi. C'était très, très instructif, et j'imagine que ça donnera envie à nos auditeurs et auditrices de s'intéresser à Sur la route de Chrysopée, de l'acheter, de le racheter, de l'offrir, que sais-je. Et puis aussi un point, si jamais on veut que on est presque à 2 heures, allez, on va dire 1h30 d'émission avec Morgane ne vous ont pas suffi, vous voulez encore entendre sa voix. En ce moment, on l'entend sur Sorcelume, sur 2D6 plus cool, la campagne Sorcelume de... C'est du Donjons et Dragons, je crois. Mais
tout
bon, à la source de D6 plus cool, donc bon.
C'est du Donjons et Dragons, mais avec l'Akesis en maître du jeu, et elle est incroyable. Et bien sûr, puisque nous sommes sur 2D6 plus cool, toujours plus de drama.
Voilà, donc si vous voulez entendre ça, on fait un petit raid chez les copains de 2D6 plus cool. Voilà.
Ouais, on s'amuse beaucoup. Mais il y a plein d'autres fictions super sur 2D6 plus cool.
Tout à fait. Eh bien, sur ce, merci beaucoup encore une fois, et je pense qu'on va dire au revoir à nos auditeurs. Au revoir.
Merci à toi, et au revoir tout le monde.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Rollist. Ah non, c'est pas ça. Faut pas que je commence comme ça. Tu vois, déjà, ça commence dès le début de l'enregistrement. Voilà. Bon, ça va un peu plus bétiller, c'est pas grave. Faut absolument faire ça. On est dans une émission culturelle, on va dire un mot allemand. C'est le Zeitgeist, n'est-ce pas?
J'ai l'air pas très impliqué comme ça. Donc, je peux éventuellement demander des détails à Oscar, voilà.
Ne t'embête pas, c'est juste que, comment dire, ton enthousiasme se sent d'une façon différente que par des chiffres, voilà.
Ouais, j'avoue, voilà, c'est comme ça. On l'a prêté, je l'ai lu en détail, c'est un jeu De Profundis. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, moi et ma mémoire des noms, vois-tu, ce serait bien si j'en citais l'auteur, non?
Oui, mais la magie du montage va faire que tu vas pouvoir en citer l'auteur.
Oui, alors accorde-moi une seconde et le montage fera le reste. J'arrive. De Profundis, jeu de rôle. Oui, alors, je suis incapable de prononcer son nom correctement. Il est polonais. Ah, pardonnez-moi, si je fais n'importe quoi, il y a de grandes chances que je fasse n'importe quoi.
J'ai la voix qui se voile, je recommence. Un petit peu comme tu as... Non, j'ai encore la voix qui est bizarre. Attends, excuse-moi, je vais me chercher un verre d'eau.
Je t'en prie. Voile.
Pourtant, je devrais le savoir que le meilleur ami du micro, c'est un verre d'eau. je vais essayer de reprendre à peu près comme il faut.
Ah, du coup, Sorcelume. Ça te plaît? Du coup,
oui.
Ça te plaît?
Oui, ça me plaît. Tu vois, je pense que j'aurais jamais écouté du D&D autre part et ça me plaît beaucoup.
Ah bah, je le dirai à Vols, il sera content, tiens.